En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Lors de la séance du lundi 17 décembre 2012 à l'Académie des sciences morales et politiques, le sociologue et philosophe Jean Béchler a donné une communication qu'il a intitulée « Les attracteurs planétaires ». Il faut entendre « attracteurs » au sens mathématique du mot, et Jean Béchler traite de la mondialisation entrée grâce à Canal Academy dans la salle des séances.
Le titre est énigmatique, c'était un peu un clin d'œil, mais l'idée est extrêmement simple. Je la formulerai dans les termes suivants. Posons que la mondialisation est un phénomène réel et irréversible. J'entendrai par mondialisation la confluence et l'unification de toutes les histoires humaines en une histoire unique dont l'humanité, en tant qu'ensemble concret, devient le sujet. Réel signifie que cet objet inclut dans son concept un certain nombre de propriétés exclusives, dont certains problèmes inédits qui appellent des solutions également inédites. Et enfin, irréversible, c'est un phénomène sans retour en arrière possible et par conséquent une réalité nouvelle qui s'impose et s'imposera comme une contrainte permanente et perpétuelle à l'humanité. Alors, s'il en admet ce que je viens de poser, et qui bien entendu est contestable, on peut et on doit en déduire l'hypothèse que les différentes propriétés composant ce concept, dont les problèmes que cette réalité pose, donc les différentes propriétés du concept s'effectueront dans la réalité par l'entremise d'avènements appropriés. Autrement dit, ceux-ci peuvent être tenus pour des attracteurs, au sens mathématique ou physique du terme, auxquels conduiront des développements plus ou moins chaotiques. Je ne retiendrai qu'une sous-classe de propriétés ou de phénomènes, à savoir des problèmes nouveaux appelant des solutions inédites. Alors je précise tout de suite la nature de l'exercice. Il ne s'agit en rien de prévoir l'avenir, parce que c'est un exercice inutile car impossible, donc je ne m'y livre absolument pas, et encore moins de prévoir les développements chaotiques, qui eux sont encore moins prévisibles, mais d'appliquer le modèle au présent pour y repérer des indices ou des traces que l'on peut rapporter à l'effectuation des attracteurs. Alors pourquoi cet exercice? Eh bien, ce qui est le moins saisissable est le présent. Or, c'est ce que nous avons le plus intérêt à saisir, et c'est le seul moyen que je vois de se faire un peu une idée de ce qui est en train de se passer. Alors, en train, c'est pas au jour d'aujourd'hui, c'est, disons, depuis une génération, et pour les deux, trois ou quatre générations à venir. L'exercice devrait, s'il est réussi, réduire le sentiment que nous sommes en train de vivre une histoire devenue folle, faute de lignes directrices repérables. Je crois que ce sentiment est faux et qu'il y a des lignes repérables. Alors, le programme est immense, et bien entendu, je ne l'épuiserai pas. Je ne prendrai que trois illustrations, en allant du plus simple au plus complexe, le politique, puis le culturel, et enfin l'éthique. Et je m'en tiendrai surtout à la démarche, c'est-à-dire quels sont les problèmes posés par la mondialisation politique, culturelle, éthique, d'une part, et d'autre part, quelles sont les solutions que l'on peut tenir pour les attracteurs tels que je viens de les définir. Alors commençons par ce qui est le plus simple, le politique et la mondialisation. Le problème, effectivement, est simple dans son principe et bien connu depuis, à mon avis, l'aube de l'humanité, à savoir comment vivre ensemble sans s'entretuer. Alors, ce problème se pose à toutes les échelles de regroupement humain, depuis les bandes minuscules du paléolithique, jusque dans le cadre de la mondialisation. Mais je crois que la mondialisation pose le problème dans des termes explicites. Comment vivre ensemble à l'échelle planétaire sans s'entretuer à l'échelle planétaire? Autrement dit, je laisse de côté, je mets entre parenthèses, les échelles régionales et locales, qui posent d'autres problèmes. Alors, le problème est simple et la solution l'est tout autant. du moins dans son principe, et elle est connue, elle aussi, depuis l'aube de l'humanité. Il faut et il suffit de vivre ensemble en politique, en société politique, instituée de manière à régler les conflits et à prévenir le recours à la violence par l'entremise de la loi et du droit, c'est-à-dire de la justice. Malheureusement, cette solution pleine de bon sens souffre de deux handicaps intrinsèques. Premier handicap, l'application de la loi et du droit exige le recours à du pouvoir, lequel peut devenir la loi du plus fort et imposer l'injustice. Autrement dit, il faut trouver le bon régime politique pour que cette solution soit applicable et appliquée d'une manière à peu près supportable. Deuxième handicap, au moins aussi grave, l'humanité étant dès les origines en état de dispersion, elle est en fait distribuée en N politiques qui, entre elles, sont soustraites à la loi et au droit. D'où il résulte que les politiques en contact sur une transpolitique sont menacées par la guerre. Autrement dit, il n'y a pas moyen de contrôler la violence. Alors l'humanité a trouvé dès les origines deux solutions de principe. La première, et qui a valu pendant plusieurs dizaines de millénaires, il suffit d'éviter tout contact entre politiques. C'est la solution des bandes paléolithiques. Elle s'évite systématiquement. Et donc, il n'y a pas de conflit, donc il n'y a pas de violence, et donc il n'y a pas de guerre. La guerre est née à un certain moment. Deuxième solution, radicale, consiste à unifier les transpolities en politie. Autrement dit, si vous avez 10 polities susceptibles de se faire la guerre, vous les transformez en une politie, et puis il n'y a plus de guerre. Malheureusement, il n'y a aucun exemple historique d'unification politique par une voie pacifique et délibérée, pas même la Suisse. L'entreprise d'unification politique européenne est un apax absolu dans l'histoire de l'humanité, il ne faut jamais l'oublier. Ça ne réussira peut-être pas, mais si ça réussit, c'est vraiment quelque chose de tout à fait inédit. En fait, toutes les unifications, et il y en a eu des dizaines, des centaines, peut-être des milliers, ont toujours été effectuées par la guerre, avec comme terme ultime la mise en place d'un empire dont le régime politique est toujours et irrésistiblement de type autocratique, ce qui impose le premier handicap, à savoir des régimes qui ne garantissent pas la justice. La loi et le droit sont compromis, ne sont pas, ils sont plus ou moins, mais ils sont compromis. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, aucune de ces trois solutions n'est applicable aux problèmes politiques posés par la mondialisation. En effet, l'ignorance réciproque est impossible puisqu'elle est logiquement contradictoire avec le concept de mondialisation. L'unification politique pacifique et délibérée, c'est déjà guère possible à l'échelle européenne, à l'échelle planétaire, ça n'est même pas à l'ordre du jour. L'impérialisation par la guerre est impossible pratiquement, car aucune politique n'a les moyens de l'effectuer, les Américains s'en sont rendus compte lors de la présidence Bush. On ne peut pas gérer la planète, on peut encore moins créer un empire américain en bonne et due forme, parce que les Américains n'en veulent pas, n'en ont pas les moyens, et que le reste du monde a des ressources illimitées en termes de blocage et de nuisance. Donc la solution impériale me paraît tout à fait exclue. Alors, quelle est la solution et quel est l'attracteur ? Eh bien, l'humanité a déjà expérimenté par le passé, et très souvent, une autre solution. Elle est suboptimale, selon les critères de la paix et de la guerre, mais elle est moins mauvaise que l'état de nature des guerres de conquête et d'extermination. On en connaît historiquement deux modalités. Le premier modèle, le modèle segmentaire tribal. Pas le temps d'entrer dans les détails. Enfin, ce sont des mécanismes de fusion et de fission qui ont pour objet de mettre en place des coalitions à tous les niveaux de regroupement, des coalitions qui s'équilibrent les unes les autres. Autrement dit, repose sur des check and balances, si vous voulez. Alors, cela a la vertu tout à fait remarquable de faire en sorte que la violence n'est pas éliminée, mais elle peut faire l'objet d'une ritualisation et d'une institutionnalisation qui permettent de la rendre supportable au niveau des interactions sociales les plus fréquentes et les plus intenses, et de rejeter vers l'extérieur les formes extrêmes de violence. Alors, cette solution a été celle de l'humanité pendant plusieurs millénaires, de 5 à 7 000 ans, dans toute la période de néolithisation. Alors, aujourd'hui, je n'en vois pas d'application plausible. Il subsiste dans le monde, en Afghanistan par exemple, mais ailleurs aussi, des mécanismes de ce genre, mais à l'échelle planétaire, ils sont impossibles. Donc, il y a un deuxième modèle que j'appelle avec, à la suite de Raymond Aron d'ailleurs, je n'ai pas inventé le mot, oligopolaire. Je dis bien oligopolaire, pas pour des raisons de linguistique et de conformité grecque, si vous voulez, du mot, mais parce que oligopolaire veut dire quelques politiques, qui n'a rien à voir avec multipolaire. Multipolaire, c'est plus d'un ou de deux, ce qui ne veut rien dire. Enfin, alors que oligopolaire veut dire 5, 6 ou 7 politiques regroupées sur une transpolitique et entretenant entre elles des rapports permanents, mais où le rapport des forces est tel qu'aucune n'est assez puissante pour l'emporter sur la coalition de toutes les autres. Cette situation oligopolaire instaure une logique de jeu qui impose une stratégie dominante défensive de maintien, de restauration, d'amélioration de l'équilibre, de telle sorte que chaque politique puisse se sentir en sécurité pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a. Donc la stratégie payante est défensive. Alors, le système, une fois en place, peut varier de la coopération la plus lâche à la plus étroite. Et plus elle est étroite, plus la transpolitie se transforme en quasi-politique. Et par conséquent, des lois et des droits apparaissent, se développent spontanément. Ils peuvent être énoncés, imposés et respectés par consensus. Alors, la guerre n'est pas éliminée, parce que cela reste une transpolitique. Et quelle que soit l'étroitesse de la coopération, eh bien, le recours à la guerre peut devenir indispensable à l'équilibre, ou bien un conflit mal géré peut dégénérer en guerre, et celle-ci, une fois éclatée, peut être happée par la logique de la montée aux extrêmes, dont Clausewitz a fait l'analyse définitive. Alors, les exemples historiques de systèmes oligopolaires se rencontrent dans deux contextes, l'un extrêmement abondant, un peu partout sur la planète, mais malheureusement très très mal documenté, c'est le monde des cités. Il n'y a pas que des cités en Méditerranée, il y a des cités sur tous les continents, dans les interstices des sociétés segmentaires tribales, mais pour la plupart, on n'a pas de documents. Donc, en dehors de la Grèce, de la Méditerranée, si vous voulez, on a guère de quoi produire des expériences qui vérifient les hypothèses. Le principal exemple historique, ben, vous est connu, c'est le concert ou la balance des nations en Europe à partir des 14e, 15e siècles jusqu'en 1914. Alors, quel est le rapport avec la situation actuelle? Eh bien, je crois que toutes les conditions sont réunies pour qu'émerge à l'échelle planétaire, c'est du moins une thèse que je défends depuis une bonne quarantaine d'années, pour que se mette en place un système oligopolaire planétaire. Le chiffre minimal est à peu près réalisé, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, Russie, malgré tout, on espère l'Europe. Il en faut entre 5 et 7, au-delà, la logique devient différente. Alors, bien entendu, il faut que les acteurs fassent l'apprentissage des règles du jeu, à savoir que les stratégies gagnantes sont défensives, d'une part, et que d'autre part, c'est un jeu à somme positive. Il se trouve qu'aucun des acteurs appelés par l'histoire à jouer ce jeu ou à participer à ce jeu n'en a la moindre expérience, sauf la Russie, pour des raisons de contiguïté avec l'histoire européenne, ce qui explique beaucoup de choses, enfin, dans l'attitude des États-Unis, de la Chine et de l'Inde, du Brésil, n'a jamais eu de politique extérieure du tout. Mais bon, ils apprendront, il faut 1, 2 ou 3 générations. Ça n'est pas particulièrement difficile. Alors, dans ce contexte, on devrait assister à la production de lois, de droits et d'agences communes pour les produire et pour les gérer. Je pose donc en hypothèse que l'attracteur est ce système oligopolaire et qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde, et depuis une dizaine d'années au moins, enfin disons depuis la chute de l'Union soviétique, toute une série de phénomènes que l'on peut, sans audace excessive, rapporter, si vous voulez, au travail de taupe de l'histoire, pour parler comme Marx, c'est-à-dire l'émergence progressive de ce modèle oligopolaire, je le répète, et non pas multipolaire. Alors, ça, c'est très simple. Je vais prendre un deuxième exemple, un peu plus compliqué, avant d'en arriver au troisième, qui est très compliqué. Bon, le culturel et la mondialisation. Les mots « culture » et « culturel » sont notoirement difficiles à définir, et il est impossible d'atteindre un consensus sur une définition quelconque. Et pourtant, on ne peut pas se passer de ces mots. Donc, il faut adopter une définition et s'y tenir. J'adopterai la solution suivante, le culturel et le particulier humain. Le particulier s'oppose d'un côté au général ou à l'universel, c'est-à-dire ce qui vaut pour toute l'espèce et pour chacun de ses représentants. C'est quoi ? Un ensemble non quelconque de virtualité, parce que l'espèce n'est pas programmée et donc contient dans son génome un certain nombre de virtualités. Songez à un exemple tout simple et très parlant, c'est le cas de le dire. Le langage est un universel humain, les langues sont des particularités humaines. On ne naît pas avec dans son génome le français ni le chinois, mais avec la capacité d'apprendre toutes les langues possibles. À l'autre opposé, on a le singulier, c'est-à-dire toutes les occurrences dans le temps et dans l'espace des universaux particularisés. Par exemple, moi parlant en ce moment en français. C'est une singularité. Je reviens à mon point de départ. Le particulier est ce qui n'est ni universel ni singulier, et c'est par conséquent un mode particulier d'humanisation qui est produit par un cercle social de dimension qui va du couple, le plus petit cercle social possible, jusqu'à la civilisation, qui regroupe sur des millénaires des centaines de millions d'individus qui, de génération en génération, transmettent du culturel et une ou des cultures. Toutes les sociétés, même les plus simples, sont toujours composées d'une juxtaposition et d'une hiérarchie de plusieurs cercles culturels et sociaux. Si bien que le culturel est toujours stratifié, même, je le répète, dans les sociétés les plus simples. Alors, ce culturel est transmis par acculturation de génération en génération et, dans le cas des civilisations, sur des millénaires. En quoi la mondialisation pose-t-elle un problème à résoudre impérativement ? C'est ça le sens d'une contrainte. On ne peut pas décider de l'ignorer. Il faut faire quelque chose. Eh bien, en simplifiant à l'extrême, mais sans trahir la réalité, les millénaires de néolithisation ont conduit à la mise en place de quatre grands cercles culturels maximaux, un cercle chinois, un cercle indien, un cercle asiatique et un cercle européen occidental. Or, et c'est là qu'est la subtilité, une civilisation est l'humanisation la moins particulière possible sans s'identifier à l'universel humain. Donc la question... Quelle humanisation, encore moins particulière, sans être universelle, concevoir à l'intention d'un cercle social qui soit à l'échelle planétaire ? Que pourrait bien être une particularité mondiale commune à toute l'humanité ? Alors, a priori, trois solutions sont possibles, enfin, peuvent être envisagées plus exactement. Une première est tout simplement impossible, absolument, parce qu'elle est logiquement contradictoire. À savoir l'universel devenu actuel. C'est, je crois, l'illusion profonde et tragique des Lumières que d'avoir pensé qu'en prenant appui sur la nature et la raison, qui sont effectivement des universaux humains, on pouvait proposer une humanisation naturelle et rationnelle qui rendrait obsolète et arbitraire, réduirait à l'état de préjugé toutes les humanisations particulières. C'est une illusion, et une illusion tragique, mais c'est une illusion seulement partielle. En effet, il est effectivement possible, par l'application rigoureuse de la méthode scientifique, de parvenir à des conceptions justes de la raison. Autrement dit, l'application de la raison scientifique à la nature humaine permet de repérer, d'étudier, d'expliquer les universaux humains, du moins on peut en faire le programme et en lancer le projet, mais il est impossible de réaliser les universaux sans les particulariser. On peut définir en termes scientifiques rigoureux, par exemple, la démocratie, mais il est impossible de réaliser la démocratie. On ne réalise jamais qu'une démocratie dans un contexte particulier. Une deuxième solution est possible, elle est même plausible, mais elle est peu durable, car elle souffre d'un vice intrinsèque, à savoir l'adoption d'une humanisation particulière par l'humanité entière. Par exemple, tous les humains parlant la même langue. Bon, c'est une particularisation qui devient universelle. Alors, deux modèles sont possibles. Ce serait l'américanisation, par exemple, ou bien la sinisation, ou bien l'hindouisation, ou l'islamisation, ou l'européanisation. Je la crois très peu probable parce que des résistances sont inévitables. Le plus probable, c'est un méli-mélo des Macédoines de plus petits communs dénominateurs, un mélange de hamburger, de méditation orientale, de Coca-Cola, d'œcuménisme, de droits de l'homme, etc. Enfin bon, alors on peut introduire là des modes et tout le monde est content. Malheureusement, cette solution, la trop hautement plausible, souffre de vices intrinsèques. Pour le saisir, il faut, je crois, distinguer entre deux formes de particularisation. L'une que j'appellerais hominisation, il faut des mots, à savoir toutes les particularisations culturelles qui sont appliquées à résoudre les problèmes humains de survie, les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes techniques, et ainsi de suite. Et d'autre part, ce que j'appellerais l'humanisation, c'est-à-dire la définition des destinations humaines, ou, si vous préférez, les fins dernières. Alors, je crois que l'hominisation peut s'accommoder de Macédoine culturelle changeante et capricieuse. Ça ne pose pas de problème insurmontable. Par contre, l'humanisation y est fondamentalement, foncièrement, je dirais métaphysiquement hostile, parce qu'il y a plusieurs fins dernières, objectives, repérables, chacune définition, une humanisation qui ne peut pas être réduite à un plus petit commun dénominateur avec les autres. J'y reviendrai dans le point suivant. Alors, la troisième solution que je vois pourrait être, tout simplement, la transformation de la modernité comme attracteur à condition de la définir comme une matrice culturelle. Je ne développerai pas ce point qui est assez complexe. Si ça vous intéresse, je vous donnerai des références. Je crois que la modernité est l'analogue du néolithique, c'est-à-dire le passage d'une matrice culturelle primitive à une matrice traditionnelle, c'est-à-dire à des champs de possibles inédits. Et si l'on adopte cette hypothèse, eh bien, il n'y a pas de difficulté, si vous voulez, à concevoir à l'usage de la planète, tout simplement la modernité, comme la source des Macédoines, si vous voulez, qu'il est possible de composer, si vous voulez, et de faire se succéder. Cela ne résout pas le problème des fins dernières, et ce sera mon dernier point. Je vais un peu vite parce que ces choses-là sont assez rudes et que l'après-midi est déjà bien avancé. Donc l'éthique et la mondialisation. Alors, pour dégager et formuler un problème, il faut commencer par donner une définition précise de l'éthique. Encore un mot qui est galvaudé, qu'on trouve à toutes les sauces, sans en obtenir jamais de définition précise. Il faut le définir et ensuite préciser la place de l'éthique dans le dispositif humain. Je saute immédiatement à ma conclusion. Je dis bien que c'est ma conclusion. Je crois que le mot d'éthique recouvre trois réalités qui sont réunies par le fait qu'elles traitent des appropriations humaines, c'est-à-dire de ce qui est approprié au propre de l'humain. Autrement dit, ce dont le respect rend un être humain digne de ce nom. Autrement dit, ce qui permet d'humaniser les êtres humains virtuels qui, de génération en génération, sont lancés dans la vie. Je crois qu'il y a, donc j'ai dit, il y a trois réalités. Il faut des mots. Première réalité, c'est le convenable, to prepon en grec, c'est-à-dire ce qui se fait et ne se fait pas, qu'on appelle généralement les mœurs. Je crois qu'il vaudrait mieux parler ici de morale, mais enfin le mot, en français en tout cas, est trop spécialisé pour convenir. Il est assuré que tout ce qui relève du convenable est infiniment variable selon les cercles culturels et sociaux de toute dimension. Deuxième réalité que j'appellerais l'impératif, c'est-à-dire ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Ce sont les devoirs d'État, c'est-à-dire les conduites qui sont appropriées ou inappropriées aux fins de l'homme, c'est le bien et le mal, en entendant par le bien l'ensemble structuré des fins de l'homme. On constate, en compulsant les dossiers convenables, la plus grande constance à travers toutes les variations culturelles. Je ne suis jusqu'ici jamais tombé sur une société où il fut recommandé, où l'injustice fut recommandée, ni le vol, ni le mensonge, ni le sacrilège, ni le meurtre, ni la lâcheté, du moins pour les soldats, ni la tricherie entre joueurs. Cela n'existe pas. Il y a donc la plus grande constance. Et enfin, troisième réalité que j'appellerai l'ultime, à savoir la ou les fins dernières, dont la poursuite donne son sens à l'existence humaine. Alors là aussi, si on traite de manière appropriée les données empiriques, eh bien, on est conduit irrésistiblement à isoler trois orientations fondamentales possibles et à leur trouver des justifications profondes. Une orientation, je l'appellerai séculière, où la fin dernière consiste tout simplement à faire son métier humain de son mieux à la place assignée par le sort, avec des inflexions dans des sens qui peuvent être hédonistes, héroïques, mystiques, et qui appellent des comportements appropriés, mais sur un fond commun, si vous voulez, de respect de ses devoirs d'État. Et puis vous avez deux orientations religieuses, l'une qui assigne à l'humanisation d'obtenir la participation à l'absolu par des pratiques appropriées, et une autre qui assigne à l'humanisation d'atteindre à l'identification avec l'absolu par des exercices appropriés. La chose la plus étonnante, c'est que, pour ce qui est de ces deux orientations religieuses, la première domine entièrement à l'ouest de l'Indus et la deuxième entièrement à l'est de l'Indus. Pour ce qui est de la dimension séculière, je crois qu'elle a les racines les plus profondes dans la civilisation chinoise, mais on la trouve, j'y reviendrai dans un instant, ailleurs. Alors, en quoi la mondialisation pose-t-elle un problème? Puisque c'est mon sujet. Eh bien, là encore, en simplifiant à l'extrême, mais sans travestir les faits, l'humanité a connu jusqu'ici deux situations. Dans le monde primitif, eh bien, les trois départements de l'éthique sont confondus dans ce que l'on appelle une culture en un sens différent, c'est-à-dire tout ce qui définit un individu humain dans un contexte social donné, où la culture ainsi définie est considérée spontanément comme naturelle. C'est la manière naturelle d'être humain, ce qui se traduit linguistiquement par le fait que dans de très nombreuses sociétés, le mot qui désigne les humains est le nom de la tribu, si vous voulez. Les Inuits, par exemple, les Esquimaux. Inuit veut dire humain. Nous, les humains. Les autres, bon, c'est douteux. C'est très, très fréquent, enfin, à l'échelle humaine. Vous avez une deuxième situation plus récente qui résulte de la néolithisation. La situation est analogue de culture naturelle, si vous voulez, spontanée, mais elle est sanctionnée en plus, politiquement et idéologiquement, par les autorités détentrices du pouvoir, les autorités politiques et religieuses. La mondialisation, rejointe par la modernisation sur ce point, ruine de fond en comble ce dispositif, dont on peut retirer le sentiment et la conviction que dorénavant tout est permis et que plus rien n'a de sens, puisqu'il n'y a plus de données naturelles, si vous voulez, qui assignent aux êtres humains leur destination ultime. Cette situation a été vécue dès le XIXe siècle en Europe, avec des conséquences extrêmement fâcheuses au lendemain de la Première Guerre mondiale et au moins jusqu'en 1945, Que sera-ce à l'échelle planétaire si l'humanité est privée de points d'ancrage, de boussole et de points fixes? Alors, y a-t-il une ou des solutions? Eh bien, je crois que oui, et que par conséquent, il y a un attracteur qui est déjà à l'œuvre. En effet, il faut et il suffit de s'en tenir aux trois départements de l'éthique pour dégager trois solutions simples et à portée de main. Pour les mœurs, à quoi servent-elles? Pourquoi y a-t-il des mœurs dans l'espèce humaine? Il y en a peu dans les espèces animales. Pour une raison très profonde, dont on ne peut pas se passer, les mœurs assurent la fonction suivante, minimiser les risques de conflit entre individus vivant ensemble en optimisant la perception juste des comportements probables des uns et des autres. C'est une manière, si vous voulez, de carte sociale des réactions possibles aux attitudes, aux actions de chacun. Cette fonction est à ce point indispensable à une espèce telle que la nôtre, qu'elle est assurée partout et toujours par la production spontanée de mœurs, ce qu'on appelle par exemple la culture d'entreprise. Il n'y a pas de groupement humain sans culture en ce sens. Alors, entre cercles de mœurs distinctes, eh bien, ou bien on s'ignore faute de contact, ou bien alors il faut et l'on peut énoncer des règles explicites du jeu. Pour les devoirs d'État, eh bien, ce sont des universaux qui figurent dans toutes les sociétés, dans les mythes, les proverbes, les codes explicites, le confucéisme, les codes du dharma en Inde, le stoïcisme, enfin entre autres, bon, c'est tout cela. Il renvoie à Cicéron, le De Officiis, qui est un des plus beaux exemples d'étude des devoirs d'État, et que dont le contenu, si vous voulez, pour l'essentiel, se retrouve partout. Je n'exclus pas la possibilité, ce serait peut-être intéressant d'en lancer l'idée, une sorte de commission d'éthique qui produirait un code où se retrouveraient toutes ces traditions. Enfin, bon, ce ne serait pas très excitant intellectuellement, parce que je veux dire, c'est évident, si vous voulez. Bon, enfin, pourquoi pas? Ça pourrait occuper une agence internationale. Pour les fins dernières, c'est là qu'est la difficulté. En effet, elles sont effectivement plurielles, inconciliables, indécidables, et par conséquent, des occasions de luttes à mort, si ou bien elles veulent s'imposer par la force, les unes contre les autres, on en a des exemples, ou bien, ce qui est beaucoup plus fréquent, si elles servent de marqueurs idéologiques pour des entreprises politiques. Cela ne relève pas de l'éthique, c'est un problème politique, pour lequel une solution est procurée par une distinction que vous connaissez tous entre trois espaces sociaux où se déploient les activités humaines. Vous avez l'espace public, qui est censé s'occuper du bien commun. Vous avez le privé, où sont censés se gérer par négociation pacifique les intérêts particuliers, en concurrence les uns avec les autres. Et il y a une troisième sphère, on peut appeler l'intime, qui est la sphère de liberté de l'individu. Or, jusqu'ici, dans les histoires humaines, le privé n'a pu s'épanouir que sous la tutelle de régimes politiques à inclination démocratique ou dans les interstices de régimes autocratiques un peu ou relâchés. Par contre, l'intime n'a guère été différencié du privé et du familial jusqu'ici. Je pense qu'il suffit que l'intime s'actualise hors de la virtualité et recueille la gestion des problèmes qui lui sont propres, à savoir l'autoconstruction de la personnalité à la lumière d'une fin dernière, pour que le problème soit réglé, du moins en termes politiques, que cela échappe à la sphère publique et à la sphère privée, cela relève de la sphère intime. Et je pose comme attracteur planétaire l'intime, dont il y a d'innombrables symptômes et indices à l'heure actuelle, mais qui échappent parce qu'ils sont très facilement confondus dans une Macédoine mystique, pseudo-mystique, et ainsi de suite. Mais il y a des choses que je crois très justes, très profondes et pleines de promesses dans ce qui se passe à l'heure actuelle, en particulier en Europe. Conclusion, il n'y a pas de conclusion, parce que c'est un programme, si vous voulez, d'enquête. Mais je pose un dernier problème. Et comment dire, un dernier attracteur en forme hypothétique, toutes les cultures humaines, à ma connaissance, du moins les grandes civilisations, ont leur idéal humain. Le Kalokagathos en Grèce, l'homme de bien, l'honnête homme, le Junse confucéen, enfin bon, je ne sais pas si je prononce bien. Donc un attracteur planétaire serait intéressant à repérer. Quel pourrait être l'idéal humain de la mondialisation ? Je crois pouvoir assez facilement repérer quel est l'antagoniste ou le contradictoire du Kalokagathos, c'est-à-dire le Banausos. Le Banausos, aujourd'hui, est celui qui est persuadé que sa culture est la culture humaine naturelle et non pas une culture particulière. Je ne sais pas comment il faudrait définir le Kalokagathos, le Banausos, ne suffisant pas, en renversant les termes, à définir le Kalokagathos. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre le sociologue et philosophe Jean Béchler. Vous pouvez consulter le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bassit-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement en libre accès permanent.